Libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Aligre en ce vendredi 15 mai. Il est 18h, je suis Emmanuel Gavard et vous êtes sur l'émission Chute Libre. Ce mois de mai est un peu particulier parce que Paul de Brancion, qui vous accompagne habituellement le vendredi, est en résidence d'écriture en Ardèche. Il a laissé carte blanche à deux journalistes, Alice de Brancion et moi-même, pour alternativement charmer vos oreilles en attendant. Alors aujourd'hui pour cette émission, nous allons parler de lieux, de nos rapports avec les lieux qui nous habitent, les lieux que l'on habite, parce que je reçois Stéphanie Barbetta. Stéphanie, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes autrice, artiste pluridisciplinaire, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, et vous venez de Suisse. Vous êtes connue aussi sous le nom de Substance Brute sur les réseaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler des lieux, des foyers, et celui d'où vous venez porte déjà un nom magnifiquement poétique, parce que vous êtes italo-suisse, mais vous avez grandi et vous vivez à Eaux Vives, au pluriel.
Exactement, aux Eaux Vives, qui est un lieu, un quartier de Genève, dans lequel il y a eu beaucoup de traces de sources et les noms continuent, enfin les rues continuent de porter ces traces de sources aquatiques là.
Donc il porte bien le nom et il est conforme à l'idée qu'on s'en fait quand on entend ce nom poétique aux oreilles.
Il y a le jet d'eau qui surgit au milieu des Eaux Vives.
On vous remercie d'être venu jusqu'ici à Radio Aligre. Vous êtes autrice, vous êtes photographe, performeuse, poétesse. Vous avez étudié la littérature, la philosophie, mais aussi le théâtre, qui a, vous dites, éveillé chez vous un rapport au corps et vous a permis d'aller au-delà de l'écriture. Vous dansez. Nous lirons quelques-uns de vos poèmes. Vous avez participé au festival Créatine en 2025. Vous faites aussi du slam. Vous avez été demi-finaliste du concours de Landertown. Vous êtes chroniqueuse pour la radio de Lausanne, Redland Radio. Vous tenez des chroniques sur poésie en philosophie. Ça fait beaucoup de choses. Et en 2024, donc, vous avez publié un ouvrage chez Georg Editeur qui s'intitule Empty Home, mais qui en réalité trouve ses origines dans un projet beaucoup plus large, parce que c'est une exposition, ce sont des performances aussi, ce sont aussi des choses nouvelles, des espaces de rituel. Alors pour commencer, Empty Home, c'est quoi exactement ?
Alors Empty Home, j'ai démarré ce projet en 2022 suite à un premier déménagement que j'ai dû subir à la suite d'une résiliation de bail. Et j'ai réalisé qu'on avait peu l'occasion de se retourner sur les zones de séparation et de rupture, notamment avec les lieux. Le fait de quitter un espace, à savoir une maison, un appartement, une colocation dans certains cas, et d'avoir un temps dédié au fait de dire au revoir finalement, de ritualiser, de créer un événement, presque une cérémonie autour de ce lieu vide qu'on va quitter, ça me semblait important pour aussi réaliser une zone de deuil, qui est le deuil des espaces, qui est très peu abordé. On parle du deuil des enterrements, on a beaucoup parlé de ça, notamment suite au confinement, avec ces personnes qui vivaient à des endroits qui ne pouvaient pas forcément être réconciliables et se rejoindre. Mais on a aussi oublié le rapport qu'on avait aux espaces, et c'est quelque chose qui m'habite.
Donc tout est né de ce manque de rite, et de là est née la réflexion que vous avez eue sur ce rite. Et alors là, vous vous êtes dit, il faut créer ce moment, cet espace.
Je me suis dit que j'en avais besoin, que c'était fondamental pour moi, après avoir vécu plus de 30 ans dans un même appartement, un appartement qui était passé de génération en génération par la location, d'immortaliser, de revivre cet espace différemment, de l'entendre aussi différemment, sans ses meubles, sans ses fournitures, sans tout ce qui l'habitait, et puis de me retourner un dernier moment, un dernier instant sur ce lieu, déjà premièrement seul, et puis ensuite j'ai compris que les personnes avaient besoin de ça, que souvent on était hanté par des lieux desquels on s'était séparé, mais sur lesquels on ne s'était pas retourné, et que finalement ça indiquait un besoin, peut-être pas affirmé et connu, mais un besoin de trouver des circonstances pour se retourner vers un espace qu'on quitte.
Et donc, de là est né le projet Empty Home. Et comment vous l'avez peu à peu concrétisé alors ?
Alors ça s'est manifesté aussi suite au décès de mes grands-parents. Il y avait cet espace vide, cet appartement vide, et j'avais aucune personne pour le parcourir une dernière fois, vu que les personnes qui y habitaient étaient disparues. Et j'ai invité des personnes à venir parcourir ce lieu une dernière fois. Et c'est des personnes qui venaient un petit peu de Suisse, de toute la Suisse, et qui se sont prêtées à l'exercice. Et puis par la suite, ces personnes m'ont contacté, m'ont dit « Ah, je dois déménager à mon tour et des personnes d'écho en écho m'ont aussi contacté pour les mêmes raisons et puis je me suis retrouvée finalement à créer des manières de quitter un espace par le biais de l'écriture, par le biais d'objets qui étaient des objets ni les miens ni les leurs qui permettaient d'entrer en communication, en résonance avec le lieu mais d'une manière différente, de quelque part préparer au départ.
Donc vous les avez invités à vivre et à créer ce moment de retour, ou de départ plutôt, dans cette maison vide. Et là, vous les avez photographiés.
Exactement, c'est le dernier retour, le dernier passage au sein de cette maison avant de rendre les clés, ou avant la démolition, dans le cas d'endroits qui ont pu être démolis. Et c'est un moment qu'on co-crée ensemble. C'est vraiment pas moi qui viens avec une scénographie ou avec une mise en scène. C'est la volonté de se retourner sur certains espaces. Et moi, j'invite les personnes à entrer en lien avec le lieu d'une manière nouvelle. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude de toucher les murs. Qu'est-ce que ça fait de toucher les murs ? On n'a pas l'habitude de sentir les poutres. Qu'est-ce que ça fait d'entrer en contact avec ces zones-là, autour desquelles on passe sans vraiment s'arrêter et puis qu'on habite moins, qui nous entoure ?
Redécouvrir la maison nue, sans l'espace des meubles, c'est aussi redécouvrir tout cet espace qui était beaucoup plus grand, qui paraît vide, qui résonne parfois au niveau de la voix, ça crée aussi de nouvelles choses, j'imagine. Donc du coup, c'est tout leur rapport au corps avec le lieu aussi qui change dans ces moments-là.
Exactement, on se souvient des marques des passages antérieurs, on se souvient de l'emplacement des meubles, de l'emplacement des tableaux aussi, il y a les traces. D'ailleurs, sur les murs, des espaces qui ont été quelque part protégés, ou en tout cas, l'empreinte est restée de ce meuble ou de ce tableau à l'intérieur même du mur à travers les années.
Ou abîmés parfois, j'imagine aussi.
Exactement, on peut voir les tapisseries qui sont abîmées, on peut voir les fissures, et puis elles racontent quelque chose.
Alors, je vais lire un extrait donc de ce livre Empty Home, où on retrouve beaucoup de photos donc, que vous avez prises lors de ces moments du dernier retour. Mais avant, il y a aussi tout un texte d'explication, parce qu'on va le voir dans cette émission, Empty Home est un projet qui va beaucoup plus loin que ces seules photos. Donc, je commence. « Penser la maison revient à penser l'espace dans un premier temps. Lieu de la rencontre avec soi et avec les autres, domaine de l'espace intime protégé de l'incursion publique, la maison, le foyer ou la demeure ne se quitte pas aussi facilement que les dispositifs de location qui s'y rattachent semblent le prétendre. On est certes tenu à un contrat de bail en tant que locataire, mais un logement pleinement vécu déborde ce qui le régit dans un attachement sans bornes, si bien que le contrat de base signé se virtualise et ne s'incarne plus que dans les prélèvements bancaires mensuels pour s'oublier le reste du temps. C'est pourtant au sein de cet espace domestique qui nous altère et que nous transformons que les enjeux majeurs de la société se présentent, forme de coulisses de notre entrée au monde. Qu'on considère les animaux et leurs maisons, les terriers, les nids, les fourmilières, les tanières, l'espace intérieur est une manière de se cacher des prédateurs, de créer un cocon qui abrite sa famille. En somme, la maison nous dérobe à la vue. Ainsi, en venant chez des personnes qui quittent définitivement leur chez-soi, qui déménagent, munis parfois d'objets extérieurs que je leur prête, ni miens ni leurs, j'instaure une forme de prédéplacement. Les objets personnels, sortes de prothèses prolongeant l'identité des locataires sur le départ, ne se présentent plus à leur vue, et une rencontre nouvelle entre un objet et eux se tisse. Donc vous créez aussi, vous mettez en scène aussi ce moment pour qu'ils recréent un lien avec leur maison.
Exactement. Et le lien est neuf. Et c'est ce lien neuf, ce regard nouveau en présence d'une personne avec une caméra, d'une personne avec un appareil photo, qui va permettre de conscientiser le départ et qui va peut-être accorder une condensation du temps à ce moment-là entre les souvenirs qui sont projetés, la virtualité des souvenirs que l'on imagine dans le lieu, le moment présent de ce rite qui indique un départ, mais qui est encore un passage, et la remise des clés qui succède. Donc c'est vraiment une sorte vraiment de condensation.
Ça doit être un condensé d'émotions aussi. J'imagine que au-delà du déménagement qu'on a quasiment tous connu, le fait de jeter un dernier regard et de partir, de fermer la porte, des émotions peut-être nouvelles, différentes de ces déménagements naissent.
Il y a effectivement beaucoup d'émotions qui demandent parfois aussi un retrait. Je ne suis pas constamment en train de prendre des photographies. Je laisse aussi la personne raisonner, entrer en résonance avec le lieu. Mais étonnamment, il y a aussi beaucoup de joie, ce qu'on n'imagine pas dans ces photographies en noir et blanc, parce qu'il y a une sorte de ludisme d'entrer en résonance différemment avec un lieu. Tout à coup, le lieu vide devient une scène. Et la scène se prête à un autre regard. On est tout à coup plus vraiment habitant, on devient presque actrice de l'espace. Et tout à coup, quelqu'un nous regarde. Il y a tout plein d'enjeux qui se déplacent. Et c'est dans cet aspect-là de dernier passage et non pas de manière de s'éplorer. C'est pas ça l'idée, c'est une manière de se retourner. Et dans ce retour, dans ce mouvement-là, peuvent naître des émotions très diverses que j'accueille toutes pour ce qu'elles sont, des manifestations de ce qui a été et de ce qui est.
Alors, après, on imagine que toutes les personnes qui vivent ce moment-là sont aussi des personnes qui vivent une difficulté à quitter ce lieu, ou en tout cas pour qui ça représente une déchirure. Parfois, on est content de partir aussi, j'imagine.
Exactement. Il y a aussi des personnes qui étaient très heureuses de partir. Je pense notamment à Marilyn qui devait rendre la maison de famille, la maison de ses parents. Donc il y a une joie d'enfin sortir de ce phénomène administratif qui a peut-être perduré assez longuement et qui renvoie aussi à la disparition des proches, notamment. Donc la joie de s'en débarrasser aussi. Mais je pense que la joie, si on est tout à fait honnête, c'est jamais aussi extrême, soit une joie, soit une tristesse. On se situe toujours dans une forme de prisme et qui peut être effectivement à différents niveaux mêlés, même dans le cas où on imagine qu'un lieu est associé à des épreuves très douloureuses. On peut quand même concevoir que le quitter crée malgré tout une sensation de nostalgie ou de solastalgie, on le verra après.
Ce que vous décrivez, c'est qu'en fait, à chaque fois, on quitte beaucoup plus qu'un lieu quand on part.
Oui, on quitte une partie de soi.
On quitte une partie de soi. Vous êtes venu avec des musiques. On va commencer tout de suite en écoutant une.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realise. Time's up, could be moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat, from time been the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sent to the sky, I guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talk a big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. 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 Venom.
time today like we roll trees. Save lives and made minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Dinner with and the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me. Nobody bother me. I'm a mess, honestly. Fuck your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or I'm a yummy own head. Can't tell anymore. Psychotic to the death when I dig deep. I can never find that I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt, but we're showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice, round here, no games. I don't wanna dart, nobody gonna flash. True is to stick up, hands in the air. Put the money in a bag, all cash, venom. Venom.
Vous êtes sur Radio Aligre, sur l'émission Chute Libre. Je suis avec Stéphanie Barbetta, qui a édité et qui travaille sur le projet Empty Home, qui réinvente un rite de passage pour travailler le lien avec les lieux que l'on quitte, dont elle a commencé à nous parler tout à l'heure. Stéphanie, donc vous êtes autrice, vous écrivez aussi de la poésie. La poésie vous accompagne depuis très longtemps.
Oui, et puis certaines poésies ont pu être mises en scène par le passé au sein de pièces de théâtre ou de performances.
Et donc vous êtes venue aussi avec des poèmes, et notamment qui reviennent sur les origines de ce lieu, Empty Home. On va écouter le premier qui s'intitule « La réminiscence miniaturisée, l'immensité ».
Tu avais des boucles d'oreilles à clips en toc dans des boîtes en porcelaine. Ça sentait la chicorée et les armoires étaient recouvertes d'un PVC blanc. Tu ne portais pas de vernis à ongles. Tu conservais ta trousse de maquillage dans un tiroir à côté de ton chariot de course. Le sol de la cuisine collait un peu parfois sous les pantoufles. Le lave-vaisselle était un élément du décor, jamais utilisé en 30 ans. Et sur les murs étaient affichés nos dessins au feutre, jaunis d'autrefois. Je comprime ton paysage dans un dé à coudre, que je conserve dans le deuxième tiroir du secrétaire, non loin de tes tubes d'arnica vide et de tes stylos usés. Je t'écris, pour tacher d'encre une naine blanche, pour détacher les vertèbres de tes mots qui me faisaient tenir debout, parce que me faire apparaître t'a fait mourir, comme si j'avais appris à marcher en te piétinant le dos. Quand l'univers nous donnait les vertiges, on créait spontanément des mondes miniatures. On s'écrivait pour caresser nos chairs meurtries par l'orage, pour parfumer des cimetières d'étoiles et pour lire nos réponses dans les plissures de nos coups. Ma peur crépusculaire des aubes passées, à craindre le lever de l'astre et son coucher, comme on redoute une visite ennemie, à espérer qu'il s'immobilise dans sa course, que la terre s'arrête de tourner, que ma tête s'arrête de tourner, et que ma maison devienne une tanière noire, afin que mon visage et mon corps y soient aspirés. Mais toujours le même rythme, cadence utérine, kind dance uterin, dance and evans. Si je clignote à Sylvine des yeux, tu reviendras en arrière, vers le paysage primitif, jaune irradiant, putride et éclatant, du soleil en bois qui cogne. Frappe de toutes tes forces, ne colorie pas des soleils en toc. La terre absorbe et ancre les ondoiements, te terre, enlise tes poumons et les plaques contre ton sable thoracique. L'isolement est délétère à ta respiration, diluer ton angoisse te rend léthargique. Au seuil du fossé quantique, un pas de plus et tu... Chut ! Les mots sont des pas, pas de mots. Dans la pièce insonorisée, on pousse des cris cotonneux et on chute. Rassure-toi, ici, personne ne t'entend. Descendre en deçà, invisibilise. Toujours rester au seuil, quitte à se prendre des portes et à se coincer des phalanges. Qu'est-ce qui fait venir des soleils ? Was gibt Sonnen ? What gives a sun ? Il y a des constellations dans nos corps, des étoiles mortes qui scintillent de loin, proches, on ne voit pas. Too close, we are blind. Myopie congénitale, atrophie cosmique, je tâte des absences à la recherche de ton corps qui choque, déçu de ne rien sentir. Ton silence devrait se matérialiser, avoir le son d'une gifle, le goût d'une pastèque, une planète pour mon manque, s'il vous plaît. Je n'entends que les trétillés des impressions de toi, des spasmes qui émiettent mes terres d'argile. Qui est le soleil en moi qui visibilise mes cicatrices, Je l'ai cherché indéfiniment à sa source, mais je ne peux plus préméditer mon mouvement rotatif. Le soleil brûle mes herbiers. Le sommeil les compose, et parfois le soleil s'endort. On a peint des soleils de bois, si bien que le sommeil y reponce. Peut-on voir nos propres étoiles ? Peut-on suffisamment s'éloigner de nous-mêmes et voir ce qui est mort et qui brille ? Dresse la carte astronomique de mon corps, reproduit la ramification de mes veines, préserve des traces de ma sève, si tu veux me conserver près de toi.
Merci, Stéphanie Barbetin. Alors, vous allez nous dire pourquoi ce poème est, en tout cas, vous apparaît comme fondateur dans le projet Empty Home. Ce qu'on peut y voir, en tout cas, ce qui saute aux yeux quand on l'entend ou quand on lit, c'est que on part d'une maison et on glisse progressivement vers une personne et que les deux se mêlent petit à petit. On disait que quand on quittait un lieu, on quittait beaucoup plus qu'un lieu. Quand on lit le poème, on quitte carrément une personne et on vit avec. C'est presque une histoire d'amour entre un lieu et une personne, sans même parfois qu'on le sache. Et d'où l'importance de questionner peut-être le rituel. Vous disiez que notre société ne mettait très peu en place de rituel de départ des lieux. On a toujours accompagné le deuil des personnes. Notre société accueille de plus en plus l'accompagnement des deuils amoureux, des deuils même amicaux. On apprend à quitter son travail, on apprend énormément de choses, mais on ne nous apprend pas à quitter les lieux.
Oui, le lieu, on se dit que c'est à la fois immatériel par ses murs et puis immatériel par sa présence presque banale dans nos vies. Pourtant, il incarne une sorte de condensation, d'assemblement de plusieurs souvenirs, de liens. Et puis quitter un lieu, c'est aussi quitter les personnes qui se rattachent à ce lieu, ou en tout cas les souvenirs qu'on en avait. Parfois, c'est aussi quitter un lieu parce que quelqu'un est décédé. Donc parfois, le deuil du lieu convoque aussi plusieurs deuils simultanément. Et c'est vrai que dans ce projet, et par ce texte-là poétique, je fais référence à ce lieu qu'on dit d'Aimat, qui est une sorte de foyer un peu absolu, premier, qui reste avec nous comme une sensation d'appartenance et qu'on n'arrive pas vraiment à retrouver ou qu'on retrouve que par bribes. Et finalement, on trouve ce lien-là dans tout ce qu'on disait, hein, de transgénérationnel, dans ces liens desquels on hérite.
Est-ce que vous avez parlé du deuil, ce rite que vous mettez en place avec le lieu, quand on doit quitter un lieu ou se séparer d'un lieu du fait d'un deuil, est-ce que ça peut aider à faire le deuil de la personne ?
Je pense que quand on quitte un lieu et que ce lieu-là, effectivement, se rattache à une personne, le fait de symboliser par des objets, par des actions, par une série d'événements nouveaux au sein du lieu, peut permettre de figurer une absence et de finalement incarner cette relation, la relation non seulement à la personne absente de laquelle vous parlez, mais aussi la relation à ce lieu bientôt absent. Parce qu'il y a ça aussi toujours dans la virtualité de ce dernier moment de passage, c'est qu'on s'imagine déjà plus là. Et on a quelqu'un qui est déjà parti et on s'imagine déjà plus là. Donc il y a ce moment où, en fait, je dis, est-ce qu'on perd pied ? Parce qu'on n'a plus ce double sens d'abri, de refuge et de repère, qui est le repère à la fois du lieu et puis le repère, un accent grave, qui serait la personne.
Ce repère du lieu, je trouve ça très intéressant, je rebondis dessus, c'est aussi l'habitat est aussi le lieu de l'habitus. Donc le lieu définit aussi nos habitudes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir, quand on emménage quelque part, au lien que le lieu va créer sur nos habitudes et inversement. Cette idée de chamboulement, c'est un changement temporel, un changement corporel. De combien de fois on a vécu, quand on voyage, de se réveiller, et cet instant où on ouvre les yeux, on se voit complètement ailleurs, parce que notre psyché est complètement habituée à un lieu en particulier.
On active finalement, malgré nous, des automatismes de mouvement. Ça peut être même dans les lieux qui environnent, dans la géographie de l'environnement, du contexte autour de la maison et du lieu en question, mais aussi à l'intérieur même de l'appartement. Finalement, c'est comme ça qu'on peut expliquer le phénomène de somnambulisme aussi. Et puis comment même dans la nuit, on peut, sans être tout à fait réveillé, se laisser guider et aller automatiquement dans un autre espace, dans une autre pièce. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent, en plein milieu de la nuit, l'impression de me retrouver encore dans le premier lieu dans lequel j'ai vécu. Comme s'il y avait une confusion des espaces-temps.
Comme si vous étiez toujours dans le même.
Exactement.
Alors là, ça me fait penser à, et on le ressent dans le premier poème dont vous avez parlé, à Bachelard. Bachelard qui a écrit donc La poétique de l'espace, dans lequel il revient sur nos rapports à l'espace, et notamment symbolique de l'espace, et comment l'espace, notre première maison, là où l'endroit où l'on va grandir au départ, va construire en nous toute une partie de notre psyché, le rapport au grenier et à la cave, la verticalité, mais le rapport à l'espace, et ça vous l'expliquez dans Empty Home comme un refuge, et ce sont des choses qu'on voit tout de suite dans votre poème, notamment dans l'idée du fait que les petits lieux peuvent être gigantesques. Bachelard parle des nids ou des tiroirs, qui sont des tiroirs au trésor infini. C'est quelque chose auquel vous avez pensé en faisant Empty Home, à cette base de Bachelard, comme ça?
Alors Bachelard, je l'ai découvert, pour être tout à fait honnête, après avoir fait ce projet. Donc c'était dans un second temps. Ça m'a tout de suite fait écho, effectivement, à ce que j'avais perçu intuitivement depuis mon enfance, à savoir me trouver dans un lieu qui était vraiment très petit. C'était un appartement très petit, j'avais une chambre vraiment minuscule. On pourrait presque jouer à la miniature à l'intérieur de cette pièce, qui était une presque pièce, mais en même temps, elle donnait accès à une immense fenêtre sur le ciel. Et du coup, ce paradoxe duquel on parlait hors émission, je l'ai vécu dès mes premiers instants de vie, alors peut-être pas à ce point-là, mais dès les premières réalisations de l'espace et du rapport à l'espace, de me rendre compte que oui, mon corps, enfin tout ce qui m'habitait se trouvait ou tentait dans cette pièce minuscule, mais tout pouvait se projeter au-delà et il y avait un écho entre finalement ce dont parle le poème, ce premier poème, l'univers dans oui. son infinité. Et puis la petitesse et l'immensité de l'existence dans cette petite pièce.
Oui, et ça, on le sent très bien dans ce poème, tout ce qui traverse le rapport à l'espace, qui devient petit à petit existentiel et qui devient infini, cosmos, sur les étoiles qui, si je reprends les dernières phrases, dessinaient la carte astronomique de mon corps. Depuis la ramification de mes veines, reproduire la ramification de mes veines, préserve des traces de ma sève si tu veux me conserver près de toi. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour décrire cette transcendance de l'espace où on est et à quel point on peut faire par le lieu corps avec quelque chose qui nous dépasse et qui est beaucoup plus grand.
Un de mes fils me disait ce matin, avant de naître, est-ce que j'étais mort ? Et je trouve qu'il y a dans cette question très simple un grand vertige sur en fait où on se situe et puis qu'est-ce qu'on est quand on est et qu'est-ce qu'on devient.
Où est-ce qu'on... Alors, après se pose la question, encore une fois, on parle des lieux, pas des racines. Mmh. Et c'est une distinction que vous faites dans Empty Home sur le lieu matériel et géographique, mais vous faites une distinction avec autre chose. Alors, je vais vous laisser décrire.
Vous parlez des rhizomes.
De la migration.
Ah oui, pardon. Alors, pardon. Oui, en effet, il y a effectivement le lieu qu'on quitte au sens de ce lieu dans un territoire pacifique qui est hors d'une zone de guerre. Et pour avoir travaillé avec des personnes mineures qui étaient issues de la migration et qui ont dû quitter des territoires pour des raisons de sauvegarde et de survie. Je ne parle pas de ces déménagements-là et de ces exils-là, qui, eux, sont rattachés à des successions de deuils et qui ne peuvent pas être effectivement comparés à ce déménagement-ci. Et puis, il y a aussi l'aspect que, en fait, on revient à la maison. Donc, cette maison qu'on quitte, c'est un endroit... envers lequel on est souvent revenu. Dans le cas de l'exil, on sait que c'est un départ non seulement définitif avec la maison, le Heimat, et puis finalement tout le pays.
D'accord. Petite musique encore avec laquelle vous êtes venu, Paolo Conte, parce qu'il fallait un petit peu d'Italie quand même pour en discuter.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip boom. Do 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 do, chip boom, chip boom boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip.
Chute libre sur Radio Aligre. Je suis toujours en compagnie de Stéphanie Barbetta pour son projet Empty Home. Et effectivement, c'est beaucoup plus qu'un livre de photos. Derrière, il y a une mission beaucoup plus sociale, d'accompagnement à quitter les lieux. Expliquez-nous un peu comment ça se passe exactement. Est-ce que vous contactez les gens? Est-ce que les gens vous contactent? Comment vous travaillez? Comment vous préparez ces séances d'accompagnement?
Alors, les personnes peuvent me contacter via mon site internet substancebrute.com. Elles peuvent me rencontrer suite à des expositions, à des témoignages dans des librairies. En fait, j'essaye de rendre le projet assez visible pour que justement les personnes qui déménagent puissent se dire « Ok, je peux lui écrire et puis on trouve un moment ». Parce que généralement, le temps du déménagement, il y a, finalement, quand on apprend qu'on va déménager, c'est peut-être 3 mois avant, dans le meilleur des cas. Et puis, au final, ça reste une abstraction jusqu'à ce qu'on doive se dépêcher de faire les cartons. Et là, on se dit, ah, peut-être que j'aimerais bien effectivement faire quelque chose de ce moment-là. Et à ce moment-là, généralement, les personnes me contactent, donc généralement 2 semaines, 3 semaines avant, pour me dire, voilà, j'aimerais bien, j'ai entendu parler du projet, si ce n'est pas le cas, on m'a évoqué que vous faisiez des photos autour des maisons vides, comment ça se passe. Et là, dans ce cas-là, je leur explique qu'effectivement, je viens et que chaque accompagnement est différent. Ça, c'est important de le spécifier. C'est-à-dire que je ne viens pas 2 fois avec le même accompagnement. Pour moi, il doit se prêter à la fois au lieu, mais il doit se prêter aussi à ce que raconte ce lieu. Donc, généralement, ça peut être des matériaux. Ça peut être des matières comme une sorte de tissu sur lequel on peut écrire et finalement, l'écriture disparaît aussi, qui incarne aussi cette manière éphémère d'inscrire son passage dans les lieux. Ça peut être des cartes, non pas le philosophe, mais des objets. Ça peut être des bougies, des... Enfin, il y a beaucoup de matières. Parfois, ça peut être une pipe, dans le cas précis du premier déménagement, parce que ça faisait référence à une pratique de la personne qui habitait dans le lieu. Disons que c'est chaque déménagement raconte une autre histoire, et pour moi ce qui est important, c'est pas de raconter l'histoire des déménagements au pluriel, de qu'est-ce que c'est universellement un déménagement, ça je le laisse aux philosophes et aux personnes qui sont dans la sociologie et qui étudient ça. Moi c'est vraiment de partir à la rencontre d'un individu ou d'un groupe d'individus, d'une famille ou d'un couple qui se sépare. C'est vraiment partir à la rencontre de ces personnes-là, munie de mon appareil photo, avec des objets qui sont ni les leurs ni les miens, et de voir ce qui peut naître de cette rencontre-là au sein de cet espace, et d'accompagner ces personnes à quitter leur lieu en étant une présence discrète, accompagnante dans cette démarche.
C'est là où cette démarche vient pour créer un rite de passage, et vous utilisez bien le terme accompagnant, pour passer d'un état à un autre. On est d'accord sur ce processus de passer d'un lien avec le lieu à un autre lien avec le lieu.
Et puis c'est aussi accepter que d'autres personnes l'habiteront. Je pense que c'est dans le cas où le lien persiste, le lieu persiste malgré nous, dans le cas où il n'est pas détruit, parce que heureusement, tout lieu qu'on quitte n'est pas forcément détruit par la suite. C'est aussi accepter que ce qui a été notre refuge, notre repère, notre abri au monde, du monde ou au monde, finalement, viennent abriter d'autres personnes. C'est un peu ce qui se passe aussi dans la rupture en général. C'est imaginer qu'une personne avec qui on a partagé tant de choses, qui était aussi familière, finalement, en un simple mouvement, en une simple parole ou en un simple geste de remise des clés dans le cas d'un appartement, va finalement être comme totalement éloigné de soi. Et je trouve que c'est très intéressant sur le point de vue temporel, non seulement de l'espace, mais aussi du temps, de ce que ça incarne métaphysiquement dans la temporalité, que ce moment-là où se cristallise le passé de nos souvenirs projetés, le présent de cet écart qui se creuse, et puis le futur totalement inconnu du lieu prochain qu'on va habiter, et puis des personnes qui vont habiter le lieu que l'on quitte.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui n'ont pas cet attachement au lieu, qui ne vivent pas, ne ressentent pas le besoin de quitter un lieu, qui ont une vision beaucoup plus utilitaire, on va dire, de l'endroit où ils vivent, ou de l'endroit où des proches ont vécu, et en gros, la maison est vendue, allez, on tourne la page et on passe à autre chose?
J'ai pu rencontrer des personnes qui prétendaient que les lieux n'avaient pas d'importance.
Prétendaient.
Et oui, parce que je pense que c'est intéressant de voir, on parlait aussi ensemble de degrés de profondeur, de connexion avec les espaces, et je pense que parfois on a tendance à classifier, catégoriser les liens, les choses, les lieux, pour faciliter aussi notre ancrage dans la vie et notre bien-être psychique. Pour ce faire, on peut glisser dans un déni parfois, on peut se convaincre que les espaces ou que les personnes ne comptaient pas ou comptaient peu, parce que c'est trop douloureux d'admettre le vide qu'ils laissent à la suite de leur départ. Parfois aussi, on peut avoir des rapports évitants, non seulement dans le lien affectif, mais aussi dans l'affectif. L'affect se lie non seulement aux personnes, mais aussi aux objets, aux lieux. Et on peut rencontrer des personnes qui tout à fait se disent totalement autotéliques. Je me contente de mon téléphone, de mon ordinateur, d'une pomme, et je vais où le vent me mène, et je ne me rattache pas à un espace. J'ai pu rencontrer des personnes comme ça, suite soit à un deuil, c'est le cas, d'un ami proche de moi qui, suite à un deuil, se retrouve à vivre dans sa voiture, ou des personnes qui ont une nature plus évitante dans les liens, qui se retrouvent à finalement déménager très régulièrement et faire tout leur possible pour ne pas s'ancrer dans un espace et du coup garder vraiment très peu d'objets et avoir une manière aussi un petit peu plus facile de pouvoir tout quitter du jour au lendemain.
Alors, tout ce que vous pensez, vous l'avez exprimé dans un poème qui s'appelle « La maison quittée, nos maisons vie d'eux ». Nos maisons au pluriel tiré V-I-E-S plus loin D-E, des vies d'eux. De la maison, il ne te reste que le poids indolent des clés qui vibrent tous les deux temps avec les secousses de tes pas rapprochés. Elles s'entrechoquent dans tes poches, tintamarre ou cloche. Et quand tu esquisses le geste de les sortir de la doublure cotonneuse blanchâtre de ton jean, tu réalises dans un ralentissement de caméra interne ou d'omnipotence quasi divine que cet objet insignifiant que tu as cherché si souvent, que cette mécanique automatique que tu as reproduite quotidiennement, que cet objet métallique a priori petit et qui ne vaut pas un copec, devient soudain le dernier lien entre un espace à soi et le dehors mouvant et sec. Tu connais la chaleur que produit l'ouverture de cette porte, un espace semi-humide, semi-chaleureux, dans lequel ta face intime se téléporte. Tu connais le craquement des lattes en bois. Tu connais les aspérités du mur, peut-être qu'un jour ton poing l'a frappé, peut-être qu'un jour de la peinture jaune l'a égayé, peut-être que la taille grandissante de ton enfant y était indiquée. Tu connais ces murs et ces murs te connaissent sans tes murs. Ils savent le son de tes murmures, le son de tes silences, la pulsation de tes cris, la couleur de tes espérances. On écrit nos histoires dans des maisons, on maisonne nos miroirs dans des saisons, c'est la dernière surface qu'on contemple avant de fermer nos yeux. C'est un refuge, c'est un temple pour tous nos temps nerveux. Quand les nerfs de la nuit recouvrent nos nervures, quand les terres de nos puits recouvrent nos brisures, quand les pères de nos cris nous saturent, quand les mères de nos fruits altèrent notre tessiture, la voix dans la maison vivante émerge, parfois chanson, parfois rire, parfois pleurs, parfois soupir, parfois colère, parfois un dernier souffle qui expire dans l'atmosphère. Nos maisons nous protègent quand on les partage avec les bonnes personnes. Nos maisons nous assiègent quand leurs murs nous emprisonnent. Nous les connaissons par cœur, nous les connaissons les yeux fermés, nos maisons abritent nos secrets, nos rêves veulent refouler. Elles connaissent nos nuits, elles les bercent quand plus rien ne luit et qu'on tombe à la renverse. Nos maisons nous parlent. Et si l'on sait les écouter, elles nous racontent silencieusement et énergétiquement ce qu'il y a à trouver. Nos maisons nous pardonnent quand on les recouvre d'objets. Peut-être qu'elles frissonnent, comme une peau, elles ont des endroits érogènes. Des métamorphoses endogènes, nos maisons, on s'en éloigne, mais on y revient. Elles sont aquatiques, maisons, dit tournoi, elles sont électriques, mes ongles y festoient. Elles sont pathétiques, mes ondins s'y noient. Génie de l'eau ou simple foyer des vestales, nos maisons nous habitent même quand on se fait la malle. Nos maisons ne fuient pas, elles sont à cet attachement sécur. Elles n'abandonnent pas, même si elles sont régies par des règles et des lois qu'on ne contrôle pas. Nos maisons nous susurrent, des mots que souvent on ne comprend pas. Nos maisons de nos jours chauffés nous donnent des couvertures sans tissu de chaleurs empruntées. Nos maisons nous voient, trop peu souvent on les regarde. Comme tout ce qui nous abrite, nous entoure, on perd les yeux pour les voir avec amour. On les considère comme des dus jusqu'au moment où on les quitte. On se retourne sur ce qui fut. On se dit que ça va trop vite. Qui aurait pu profiter mieux de ce coin insolite pour se donner à soi un temps de repos, un temps de répit, des moments de pépite? Alors on la regarde et on pense « Kasaham Nida ». On a essayé d'y apprendre le coréen. Coréen. On y a mangé des japchae, du kimchi et des kpop en refrain. Nos maisons connaissent nos lubies et nos amours, nos jouissances et nos vomis, nos flétrissures et nos labours, nos brillances et nos atours enfouis. À toutes les maisons dans lesquelles vous avez vécu, je vous propose de vous connecter un instant. Fermez les yeux, imaginez les tours à tours comme des diapositives à contre-jour. Ne reste que l'espace lumineuse qui vous contenait. Et prenez le temps intérieur de les remercier de vous avoir abrité. Revenez-y parfois pour vous connecter avec qui vous étiez autrefois. Les voir encore, c'est une manière de les remercier de ce qu'il y a entre vous et elles.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On the horizon, we can see it from the start. We put ourselves on the line, cause we don't want to be ignored. I can't explain why I want for you more, but the more I get, the more I want. We could get a lot closer, we cut our ties after night time. Is it our time? The choice is yours. Put this on, make me speak. Move at me, make me be. Tell me why, suddenly giving me what I need. Love my baby, I'm never gonna let you down. Thank you.
Vous êtes sur Radio Aligre, Chute Libre, et dernière partie, et je suis toujours avec Stéphanie Barbetta pour son projet Empty Home, donc un projet, on a vu, qui est un livre déjà de photographies, mais des photographies tirées de rites pour accompagner les personnes à quitter les lieux dans lesquels, avec lesquels elles ont noué un lien très particulier. On a entendu juste avant un poème qui est un vrai ode aux maisons dans lesquelles on retrouve énormément de soi. Mais Empty Home, c'est aussi d'autres choses, des performances. Je crois que dans quelques jours, vous en avez une. Vous pouvez nous dire un peu ce qu'il y a derrière.
Alors, le festival Zwischen Text, qui est un festival qui est basé à Bienne, nous a invités avec Léonil Torini, qui est un danseur de hip-hop et acrobate, et Guy Schneider, qui est un musicien percussionniste, à venir performer notre performance qui s'intitule My home has no door, my door is home. Ma maison n'a pas de porte, ma porte est la maison. Et c'est vrai que dans cette performance, on explore avec deux portes au sol qui deviennent les scènes sur lesquelles on bouge et on parle, le rapport au lieu en ce qu'il a de plus finalement réduit à son minimum, à son essentiel, à savoir la porte qu'on va fermer ou ouvrir, parce que finalement on pense au toit, on parle de sans-abri ou on parle d'abri dans lesquels on trouve refuge, mais on parle rarement des portes et des fenêtres, et pourtant il y a vraiment, à mon sens, quelque chose d'important. On parle en poésie des yeux comme fenêtres de l'âme, on parle de la bouche comme effectivement porte close quand on transporte avec soi des choses non dites. Mais c'est vrai que du lieu, souvent, quand on rend les clés, le dernier geste, comme on l'a vu avant dans le poème,
c'est de fermer la porte.
C'est de fermer la porte. Et ça, pour moi, ça ancre beaucoup de choses. D'imaginer, on se dit souvent, des personnes peuvent être nos maisons. On peut prêter parfois à d'autres individus ce pouvoir-là ou cet espace-là, cette réassurance-là. Mais je trouve intéressant de nous envisager comme des portes plutôt que comme des maisons que l'on peut actionner, ouvrir et fermer. Et finalement, peut-être qu'elles guident vers, soit comme les trous noirs, un espace qu'on ne maîtrise pas, soit vers une entité, une intimité close, et ce que je ne crois pas, mais circonférée, on va dire. Mais en tout cas, dans cette performance, l'idée, c'est vraiment de parler de notre rapport à l'appartenance, aux maisons en soi et aux maisons qu'on quitte, et se dire, ok, qu'est-ce qui nous reste de tout ça à partir du moment où on naît jusqu'au moment où on se laisse disparaître.
La porte est aussi le lieu de passage, pour le coup. Donc c'est là où elle symbolise aussi le rite, le rite que vous mettez en place, parce que la porte est le lieu de passage par essence.
Exactement. Et puis c'est vrai que la maison, c'est quelque chose qu'on... Alors, pas tout le monde a le même rapport avec son lieu de vie, mais son domicile, c'est un espace qu'on tient quand même un peu préservé. Tout le monde n'y entre pas. Et c'est vrai que ce moment-là où tout est vide, encore moins de personnes entrent dans ces espaces. Finalement, on se dit, bon, bah, c'est vide, maintenant, on s'en va. Et c'est vrai que c'est à la fois, je vois, une opportunité, un cadeau que les gens me font de m'inviter avec eux dans cet espace qu'ils n'ont jamais vu sous cette forme-là, et puis qu'on va regarder ensemble et qu'on va habiter différemment le temps. On peut habiter, oui, des espaces de manière très courte, hein. 2 heures, c'est déjà presque une habitation.
Comment se déroule la fin du rite? Parce qu'à un moment donné, il y a le départ du départ. C'est, on fait ce rite pour partir. Comment on quitte le rite de passage? Est-ce qu'il y a un rite dans le rite? Est-ce qu'il y a un geste que vous-même vous faites? Est-ce que vous dites, c'est fini maintenant? Est-ce que c'est la personne qui met fin au rite? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une durée un peu, je déteste ce terme-là, mais naturelle, qui fait que ça se termine?
C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas forcément conscientisé, ce moment de fin, la fin de la fin. Mais c'est vrai que si je repense aux expériences que j'ai vécues jusqu'à présent, il y a vraiment l'envie de parcourir l'espace de la façon avec laquelle on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et je pense qu'à partir du moment où la personne regarde ce lieu et il se voit un petit peu le découvrir dans plusieurs espaces inédits, tout à coup il y a aussi un besoin de ralentissement qui se fait, parce que ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie de quitter un lieu, de le regarder vraiment. c'est pas simplement se poser devant une fenêtre et puis je prends une photo. C'est pas ça. C'est, moi, mon but, c'est pas que les gens posent. Je déteste ça. C'est qu'ils regardent vraiment. Et regarder vraiment, rencontrer vraiment un espace neuf, puisque c'est plus l'espace dans lequel on a vécu jusqu'alors, ça demande beaucoup de ressources. Et on sous-estime ça parce que jusqu'à présent, le lieu de vie, c'est un lieu de passage aussi, c'est un lieu d'abri, mais c'est aussi un lieu de passage. On y va, on y vient et puis on oublie finalement qu'il a peut-être une durée au sein de nos biographies. Et là, tout à coup, il y a quand même la réalisation qu'il y en avait une. Chose qu'on ignore toujours quand on commence à habiter quelque part. Parfois, on a un contrat à durée déterminée, donc on le sait. Parfois, on vient pour des stages, donc on sait aussi que notre durée dans cet espace sera prédéfinie. Mais dans le cas où on déménage, on emménage quelque part, on n'imagine pas forcément de fin à un temps donné.
Alors après, c'est aussi un peu votre marque de fabrique, ces rites. Je crois que vous travaillez aussi sur l'enfant intérieur. Vous faites des séances de passage, justement, de cet enfant. Vous pouvez nous dire un peu plus, c'est ce qui relie aussi tous les projets sur lesquels vous travaillez?
Oui, je dirais que c'est le passage et puis le deuil, en effet. La séance, la série qui s'appelle « Porter son enfant sur soi et voir ce qui naît », ça propose de prendre ce qu'il y a dans les tiroirs, justement, on en parlait, ou dans les caves, les greniers, que finalement, on ne regarde pas les photographies de qui on était, de ce qu'on a vécu et qu'on classe généralement, soit dans des albums, soit dans des fours qu'on a fait développer et puis qui restent un petit peu sur le côté. Et finalement, de revenir avec ces objets, ces lettres, ces photographies et de à la manière d'un mur d'exposition, de les revêtir comme un habit et de voir avec maximum une certaine quantité de souvenirs, parce qu'on ne peut pas faire ça de manière... on pourrait y passer toute une vie, avec une matière prédéfinie de 3 à 4 souvenirs clés ou images ou lettres clés, de retraverser avec ce recul temporel cette rencontre. Et c'est pareil, c'est une rencontre avec une réalité qui est devenue imaginaire finalement. On le voit hein, quand on imagine notre passé, il est idéalisé, il y a des faux souvenirs, on se crée.
Il est mouvant.
Il est mouvant.
Il faut le dire, il faut l'écrire, il faut le raconter, il faut travailler son passé.
Exactement, comme, et puis finalement on le fictionnalise aussi.
Et ça fait partie de sa propre construction, de le déconstruire, de le reconstruire et de redéconstruire ce qu'on avait reconstruit et ainsi de suite. Et on avance avec son passé sur son dos.
Exactement. Et puis là, en fait, ce que je propose, c'est un espace-temps très concret pour le faire de manière consciente plutôt que d'une manière très, quotidienne, abstraite, qui nous échappe. Tout à coup, on prend le temps d'entrer dans la matière ensemble et puis voir ce qui naît de ce qui fut.
On approche progressivement de la fin, mais avant, je voulais vous poser une question en tant que, pour le coup, photographe, en tant que vous êtes aussi sujet. Est-ce que ça vous est arrivé de vous attacher à des lieux? On voit que ce projet Empty Home est aussi très personnel pour vous. C'est aussi un cheminement particulier. Est-ce qu'il y a des lieux sur lesquels vous avez été peut-être aspiré ou faire ce rite, accompagner ces gens à le quitter, à provoquer chez vous un attachement à ce nouveau lieu?
Je pense que dans chaque maison, chaque appartement, même atelier d'artiste, parce que ça m'est arrivé aussi avec un ami artiste qui a dû quitter son atelier après 15 ans, finalement ça devient une sorte de seconde maison, je garde quelque chose de ce lieu. Je pense que j'ai un attachement très rapide aussi, ça se manifeste un petit peu de la sorte chez moi, et finalement je vis quelque chose avec ces personnes et ils m'en... Enfin, par conséquent, il y a une empreinte de ça que je garde quand je pars aussi.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'être venue de Suisse, Stéphanie Barbetta, qui nous vient d'Eau Vive, près de Genève. Je rappelle donc que vous travaillez sur ce projet, qui est aussi un livre, mais qui est aussi une performance, un rite de passage, Empty Home, aux éditions Georg Éditeur. Vous avez choisi pour se quitter Sophie Olivo, un morceau qui s'intitule Live. Pourquoi
merci
ça vous
beaucoup.
Parle
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Emmanuel. Je suis ravie d'être ici et puis d'avoir passé ces moments avec Armand et vous. Pourquoi ça me parle, Live de Sophie Solivo? C'est parce que c'est à la fois l'impossibilité de rejoindre un lieu qui est une personne, un lien qui pourtant nous appelle. Et je pense que c'est ce qu'on voit avec la solastalgie de ce moment-là où en fait on est encore quelque part avec ce lieu, avec ce lien, mais qu'il y a une impossibilité de le poursuivre.
Donc on se quitte avec quelques notes de Sophie Oliveau. C'était Chute Libre sur Radio Aligre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Armand pour la régie. Bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.